Bonsoir à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver pour Parler Temps qui court, tous les soirs, une conversation d'une heure, ce soir avec Rosemary Stanley et Dom Lanena.
Un tango, une danse, un baiser.
Et tu peux t'appeler, papi.
Ça y est, je suis 21h.
Ah ben, à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. Donc, voilà, ça résume quoi.
C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois.
Par les temps, qui courent,
Marie Richeux avec
Rosemary Stanley et Dom Lanena.
C'est une chanson de 1953, je crois, et je crois que c'est ma chanson préférée de Jacques Brel. C'est l'été brûlant, mais ce n'est pas de la chaleur dont les hommes se protègent derrière un carreau, c'est d'une lueur trop vive à leur cœur, la lueur puissante d'un chant simple. Certains appellent cela l'amour, d'autres Dieu, d'autres la bonté, et c'est un cadeau auquel il n'est pas aisé de toujours consentir. Alors ce jour-là, les hommes sont cachés à l'ombre de leur maison et une jeune femme danse et chante sur une place déserte. Il n'y a qu'un chien pour ne pas fermer les oreilles et les yeux. Il hurlera tout à l'heure quand la fille sera partie. Jacques Brel ne dit rien de plus sur la fille et le chien, mais je les ai toujours imaginés, moi, comme des vagabonds, juste de passage, exactement comme la musique qui parfois vient et parfois ne reste pas. C'est avec cette chanson que vous ouvrez votre disque Ramage, Dom Lanena et Rosemary Stanley, un disque de réinterprétation de chansons très différentes, dont vous signez le réarrangement, on va dire, sous le nom de Birds on Wire. Bonsoir à toutes les deux.
Bonsoir.
Soyez la bienvenue, on est la veille... Quel concert de bonsoir. On est la veille de La Cigale qui est complète. Il y aura quelques chanceux et quelques chanceux à Paris, donc, 27 février. Mais vous serez ensuite en tournée à Nantes, à Tréguier, Créon, Bourges, Ivry, Massy, Dunkerque, Berne, Argenteuil, Paris aussi le 3 avril. Et un Olympia qui se rajoute comme ça le 19 janvier 2021. Prenons date, donc, et on commence par Belle.
Sur la place chauffée au soleil, une fille s'est mise à danser. Elle tourne toujours pareil, aux danseuses d'antiquité. Mais sur la ville, il fait trop chaud. Hommes et femmes sont assoupis et regardent par le carreau cette fille qui danse à midi. Ainsi certains. Place vibrante d'air chaud, où pas même ne paraît un chien, ondulante comme un roseau, la fille bondit, s'en va, s'en vient, ni guitare, ni tambourin, pour accompagner sa danse, elle frappe dans ses mains, pour se donner la cadence, ainsi certains. Thank you. chanté et son chant plane sur la ville, hymne d'amour et de bonté. Mais sur la ville, il fait trop chaud pour ne point entendre son chant. Des hommes ferment leurs carreaux comme une porte entre mort et vivant. Ah, si certains jours paraît une flamme en nos cœurs, mais nous ne voulons jamais laisser luire sa lueur. Nous bouchons les oreilles et nous nous voilons les yeux. Nous n'aimons point les réveils de notre cœur déjà vieux. Sur la place, un chien hurle encore, car la fille s'en est allée. Et comme le chien hurlant à la mort, pleurent les hommes.
Alors, j'ai jamais réussi à savoir si c'était une chanson extrêmement triste ou vraiment du côté de la vie.
Je crois qu'elle est entre les deux. C'est.
Bah, elle est solaire, mais en même temps, il y a un côté assez très sombre. À la fin, on se rend compte que c'est assez sombre, en fait, tout ça. Et même, on a l'impression que c'est cette fille qui rayonne et qui amène le soleil, en fait, mais que la vie des gens est assez sombre, au final. Les gens qui la regardent.
Qui la regardent pas, surtout.
Qui la regardent pas, ouais.
Oui, qui restent. Enfin,
qui sont derrière, leur fenêtre, quoi. Donc, c'est vrai qu'elle est assez.
Oui, c'est vrai que c'est entre les deux.
Ouais, d'ailleurs, c'est le carreau entre les morts et les vivants.
Ouais.
C'est aussi quand même l'histoire d'un peuple qui ne peut pas recevoir la musique d'un coup. Ce jour-là, c'est pas possible, ouais. C'est trop fort pour eux. Mmh. C'est trop de choses, c'est trop de vie, c'est trop de lumière, c'est trop d'amour. Est-ce que vous vous souvenez, vous, du moment où vous l'avez découverte, cette chanson-là?
Oui, moi je me souviens.
Oui,
parce que c'était un disque de Barbara, mais je pense qu'on a la même référence.
Ah, ouais,
oui. Parce que cette chanson, au départ, je crois, dans mon souvenir, est écrite pour Barbara. Il l'a écrite pour elle.
Elle l'a enregistrée dans son disque Chant de Brassens et Brel.
Voilà, et donc c'est un disque de reprise de plusieurs chansons, Brassens, Brel, il y a une chanson de Moustaki aussi, et puis peut-être de Ferré. Et en fait, je me souviens, de la première fois que je l'ai entendue, je me suis dit, quelle chose étrange, en fait.
Elle est étrange, cette chanson.
Étrange.
Mais moi, je savais pas qu'il l'avait écrite pour Barbara. Du coup, peut-être que ça explique, parce que c'est pas exactement Brel.
Non. En fait, et en plus, quand lui la chante, il la chante de manière très enjouée. Enfin, je me souviens d'une version où il est à la guitare.
À la guitare, hyper vite, très rythmé, un peu presque flamenco,
En fait. Ouais. Et il y a quelque chose de très grandiloquent comme ça. Alors qu'en fait, on trouvait que Barbara, c'est une autre version. Mais finalement, il y a quelque chose de c'est pas mal de laisser s'installer l'histoire, en fait. Il y a un rythme, justement, dans le rythme que fait Dom au violoncelle. On entend la ritournelle, il y a quelque chose qui tourne, qui est entêtant et qui finit quand même, je pense, peut-être par gagner ces personnes qui sont derrière les carreaux, mais malgré elles, quoi.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça gagne le chien, et c'est une image vraiment, moi, je trouve bouleversante, ce chien qui hurle à la mort quand la jeune fille s'enfuit. Parce qu'en fait, quand la jeune fille s'enfuit, il y a plein de choses qui partent en même temps que cette jeune femme et que ça danse. Et en fait, personne ne sait dire ce que c'est.
Mais c'est vrai que c'est peut-être une incapacité à accepter, effectivement, le chant, à accepter la musique, à accepter la danse, la beauté. Peut-être que parfois les choses sont trop belles et que c'est perçu comme une violence, en fait, parce qu'elle s'impose à nous. Et puis
trop dur de réveiller les cœurs trop vieux, déjà vieux.
Peut-être que c'est ça. Et puis tout simplement le fait que ce soit une femme qui prenne cette liberté aussi. On sait plus ou moins qu'on est dans le sud de la France, peut-être justement d'une société qui ne tolère peut-être pas cette liberté aux femmes. Et du coup, il y a quelque chose comme ça qu'elle prend, mais sans... Voilà, on ne sait pas vraiment si c'est sensuel.
En fait, il n'y a même pas de musique.
Non,
elle danse sans
ses mains. C'est vraiment aussi...
Mais il n'y a ni guitare, ni tambourin. Enfin, c'est
pour accompagner sa danse.
Vraiment un besoin de s'exprimer corporellement et...
Moi, elle écoutait plusieurs fois. Comme c'est une musique qui tourne aussi, il y a quelque chose de la trance, hein, peut-être aussi quelque chose qui est.
Ouais.
Donc, il y a aussi en effet la transgression, puisque pour le diable, c'est la bonté ou la beauté, je ne sais plus quel mot exactement, mais en effet. Alors, vous êtes deux femmes sur scène, et puis à la fin du disque, vous remerciez votre équipe de filles.
Ouais.
Et je trouve ça assez vraiment
avec des garçons dedans.
J'étais hyper surprise que vous commenciez par sur la place. Vraiment, j'ai lancé, je me suis dit tiens. C'est marrant comme, comme entrée, et j'ai trouvé que c'était presque une déclaration, en fait.
Ben oui, après, c'était difficile de trouver un ordre et de savoir ce qui... Mais c'est vrai que ça pose, par rapport au premier disque, ça posait... D'abord, il n'y avait pas de chanson en français sur le premier disque.
Je pense que c'était de là que venait ma première surprise,
oui,
je pense.
Il n'y avait pas de chanson en français, et donc là, c'est vraiment dire, ben voilà, en fait, c'est aussi ça notre culture. C'est aussi ça qu'on a envie de véhiculer, de transmettre et de chanter, quoi. Ça fait aussi partie de nous, et du coup, oui, comme premier, c'est vrai que ça pose, et c'est vrai que c'est une pierre assez imposante.
Vous avez quoi comme relation avec la musique? Vous racontez souvent, Dom la Nena, que cette musique chanson française un peu, Barbara reprend Brel, Brassens, Reggiani, finalement, on est les deux pieds dans une musique française qui vous est parvenue par quel chemin?
Par ma mère, surtout parce que ma mère, moi je suis brésilienne, je suis née au Brésil, je suis restée là-bas jusqu'à mes 8 ans. Et ma mère était, bon, elle est psychanalyste, mais elle était d'abord prof de français et elle écoutait vraiment que, enfin, Barbara, surtout Barbara, Brel, Aznavour, Brassens. Et donc c'est vrai que je connais super bien, enfin, particulièrement Barbara, au final, je me suis vraiment attachée, et on partage vraiment ça avec ma mère, mais voilà, c'est arrivé par elle, dans un premier temps, et après, je suis venue à Paris, et...
Chanson que vous compreniez au départ?
Ah bah non, au départ non, en fait, autant elle était prof de français, mais j'ai vraiment appris le français qu'en arrivant ici. Vraiment, je faisais une croix complète sur... je voulais pas du tout l'apprendre quand j'étais au Brésil. Elle a pourtant bien essayé, mais ça... Mais bon, voilà, là, c'était une musique qui m'était... Enfin, disons que j'étais petite, je choisissais pas vraiment, c'était elle qui mettait ça à tout volume dans la maison. Souvent, je rentrais, j'étais au coin de la rue, j'entendais Aznavour chanter à tout okay, poumon.
C'est chez moi.
Je disais, ok, elle fait le ménage, maman. Voilà, mais voilà, c'est grâce à elle que j'ai vraiment grandi dans ce répertoire-là.
Et Rosemary Stanley? Le rapport à cette musique-là, cette chanson française, ça vient de par qui, par quel chemin?
Plutôt par des copines de collège. Ce disque-là en particulier, et pas mal de chansons françaises, je les dois à Jeanne Aptekman.
Qu'elle en soit remerciée.
Oui, parce que effectivement, c'est elle qui m'avait fait découvrir ce disque de Barbara. Elle me prêtait beaucoup de disques, beaucoup de choses de Brassens aussi. Et puis c'est par elle que j'ai accroché beaucoup avec Pierre Macorlan. Voilà, j'ai adoré les chansons de Pierre Macorlan.
Voilà. Est-ce qu'on dit quelques mots de ce duo Bird and Wire, peut-être, parce que pour qui connaît vos autres projets, peut-être dire sur quelle branche vous vous êtes retrouvées toutes les deux?
Oui, alors on s'est rencontrées en 2012, c'est ça, et moi je cherchais un violoncelle. Je cherchais un violoncelle.
J'ai vu un violoncelle.
Cherche violoncelle. Bien. Chanteuse cherche violoncelle. Et en fait, il se trouve que la productrice qui n'est plus la productrice du spectacle, Sonia Bester à l'époque, en fait, nous connaissait toutes les deux et m'avait dit, mais tu sais, Dom la Nena, je sais pas si tu la connais, c'est une jeune chanteuse violoncelliste, et voilà. Vous devriez vraiment vous rencontrer. Et du coup, on a fait une répétition. Et en fait, ça a été tout de suite, en un claquement de doigts. En fait, on s'est retrouvés sur trois types de répertoires différents, mais ça a marché tout de suite. Il y a eu Duerme Negrito, qu'on avait tous les deux dans nos enfances.
Qui est une berceuse mondialement chantée.
Voilà, sud-américaine, trop de connue par... effectuée par Atahualpa Yupanqui. Il y avait...
Il y avait Solitude de Purcell et Bird on Wire de Leonard Cohen.
Et puis aussi All the World is Green de Tom Waits. Et donc c'était des répertoires qui partaient un peu dans...
Mais comment ça se passe? Vous vous dites on va se retrouver, on va répéter.
En fait,
coucou,
l'idée c'est que
Rosemary
voulait faire un songbook de chansons d'enfance. À la base, ça partait, l'idée partait d'elle, où elle avait envie de chanter ses chansons qu'il avait un peu accompagnées dans son enfance et tout au long de sa vie. Et elle voulait faire sa violoncelle-voix, juste pour mettre un peu plus en avant le texte, les mélodies, les chansons en elles-mêmes. Et en fait, il y avait déjà toute une série de concerts dont à la cité, une créa à la Cité de la Musique et tout ça. Et en fait, elle avait commencé avec une violoncelliste, et puis et en fait au début c'était vraiment, on était censé faire une petite série de dates, et en fait en fait c'est devenu un songbook commun, parce qu'on avait énormément de répertoires toutes les deux, de choses pas évidentes, mais qui nous ont toutes les deux accompagnées dans notre vie.
Et donc vous montez sur une scène et vous vous dites qu'est-ce que toi tu écoutais enfant, qu'est-ce que toi tu écoutais jeune femme.
Non, en fait on s'est vus pendant un an
chez moi.
C'était hyper on buvait le thé, on jouait des chansons.
C'était même pas un an, c'était 9 mois en fait. Ça a duré 9 mois cette histoire jusqu'à ce qu'on
n'avait pas compté les mois.
Si, mais moi je me souviens, parce que ça a commencé, je sais plus, en janvier, et puis on a fini.
Oui, à la fin de l'année, on avait des concerts. Oui.
Septembre ou octobre, comme ça, et c'est vrai qu'on s'est vus régulièrement, et sans, on savait qu'on avait ce concert à la fin, mais il n'y avait pas de réelle pression, ni d'arrangeurs autour de nous, ni de gens qui avaient...
C'était complètement libre.
Voilà, on était très très libre.
De thèmes...
Donc ça nous les a laissé vraiment beaucoup de temps en fait. Par ailleurs, on avait nos autres projets qui avançaient parallèlement. Mais du coup, dès qu'on pouvait, on se retrouvait 2-3 heures, une après-midi par là, par-ci, par-là, pour travailler et essayer des choses, parce que tout ne fonctionne pas, violoncelle, voix.
J'ai voulu un instrument à cordes, donc j'ai commencé la guitare. Mais c'était tout le temps des sons, j'avais besoin de sons pour m'exprimer en fait. Et puis, quand on est arrivé en France... j'ai commencé à avoir une envie qui s'est précisée, qui était de pouvoir faire durer le son aussi longtemps que je voulais. Et donc ça me menait vers un instrument avec un archet. Et là, j'ai entendu vraiment par hasard, parce que j'ai mis un disque qui était là dans ma chambre, je savais pas du tout ce que c'était. J'étais avec mes copains de classe, on jouait aux osselets. J'ai mis ce disque et c'était une sonate de Vivaldi au violoncelle. Et ce son-là m'a absolument hypnotisée. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, voilà, c'est cet instrument-là que je veux apprendre. Je pense que c'est une histoire de nécessité. Je pense toujours au fait que, je ne sais plus où j'ai lu ça ou entendu ça, que les animaux développent, par exemple, des fonctions qui vont leur servir à survivre. Par exemple, un animal qui doit se cacher va développer une fourrure qui se mélange avec toutes les végétations. Un qui doit se défendre va développer des crocs extrêmement menaçants. Et je pense qu'en fait, les êtres humains, quand ils vont dans une voie comme ça, avec cette urgence, c'est qu'ils doivent avoir une conviction que c'est par là que quelque chose sera vécu. Et je crois que dans mon cas, parce qu'après j'ai compris... C'est vraiment le côté vocal qui m'a attirée. J'y reviens en voix, que mes choix, mes études à Moscou, où on joue d'une manière très vocale, mènent toujours vers ça. Et je crois que cette voix un peu rauque, basse, et tellement malléable, et tellement expressive, devait mettre, à ce moment-là, je devais comprendre, sans comprendre, que c'était ça dont j'avais besoin pour raconter mon histoire. Puisque finalement, l'idée, c'est de raconter une histoire. Et j'ai dû sentir ça, et c'est pour ça que c'était si puissant comme désir, je crois.
C'est la voix de Sonia Vidar-Atherton, on est en 2010 dans l'émission Hors Champ sur France Culture. Elle dit qu'elle a su sans savoir, qu'elle a compris sans comprendre que c'était par là que quelque chose serait vécu. C'est quand même assez puissant pour parler d'un choix d'instrument. Alors il y a vous, tout à l'heure, Rosemary Stanley, vous disiez j'avais envie d'un violoncelle. Et puis il y a vous, Madame Lana, qui avait à un moment donné, j'imagine, aussi choisi cet instrument. Alors, après ce que vient de dire Sonia Vidar-Atherton, qu'est-ce que vous diriez de ce désir de violoncelle?
Ce qui est sûr, c'est que c'est une voix C'est effectivement une voix, et c'est ça que moi je cherchais dans le violoncelle. C'était une deuxième voix, et j'avais envie d'expérimenter, de aussi que ce soit une voix comme la voix humaine, mais d'abord c'est souvent la même tessiture que la voix humaine, et c'est pour ça que c'est aussi émouvant, aussi vibrant. Enfin, moi, c'est l'effet que ça me fait, en tout cas. Et j'avais envie, par moment, de me mettre aussi... Enfin, j'imaginais pouvoir me mettre au service de cette voix-là aussi. Parce que j'aime les harmonies, j'aime pouvoir baisser l'intensité et que ça s'échange comme ça, qu'il y ait vraiment quelque chose qui puisse dialoguer, en fait, mais pas que être aussi ensemble, mais que ce soit pas toujours la voix humaine, en fait, qui prenne le dessus. Et en fait, c'est ça qui me faisait envie d'être avec un violoncelle, c'était cette expérimentation-là, en fait.
Et vous ? Ben, moi, c'est très différent, parce que j'ai choisi vraiment le violoncelle, j'avais 9 ans, 8-9 ans, et c'est... J'écoutais Sonia parler, et c'est vrai que c'est en mettant... Enfin, d'abord, c'était en écoutant d'autres... J'ai commencé le violoncelle et puis je voyais des élèves qui étaient beaucoup plus grands que moi et qui jouaient un répertoire qui me... Je sais pas, c'était physique, quoi. C'était vraiment hyper émouvant. Et c'était un moment où j'étais en France et que... C'est bizarre parce que c'était pas du tout un répertoire brésilien, mais ça me ramenait à un truc brésilien. Je sais pas, ça me donnait une sorte de nostalgie ou de truc qui était vraiment... puissant, quoi. Ouais. Et du coup, après, j'ai commencé à écouter des disques. Enfin, j'ai découvert Jacqueline Dupré, notamment, et comme beaucoup de violoncellistes filles, je pense, à 10 ans, tombe complètement dingue, en fait, de cette nana. Vraiment, je suis devenue... Enfin, vraiment, ça m'a hypnotisée. Sa façon de jouer...
Interprétant quel répertoire ?
Au tout début, au tout début, c'était le concerto d'Elgar, parce que c'est un peu le concerto le plus connu qu'elle a enregistré et qu'elle a un peu rendu célèbre, en fait, elle-même. Mais après, en fait, je passais mon temps à chercher ses disques partout dans les disquaires à Paris. J'étais vraiment un peu obsédée, quoi, vraiment, parce que on avait beaucoup moins accès. Il y avait pas de vidéos,
oui, il fallait
sur internet.
Un peu de mal,
voilà,
pour
voilà.
La musique,
ah oui,
qu'on
je me cassais vraiment la tête. Hein. J'avais 10 ans et je faisais tous les disquaires de Paris pour trouver un max d'enregistrements, parce que vraiment, elle m'a bouleversée, quoi. Et en fait, je pense que c'est le Mais voilà, je pense que c'est vrai que la tessiture, c'est quelque chose de très, je sais pas, de très humain, en fait, finalement, le son du violoncelle. Et je pense que c'est un mélange de choses comme ça. C'est vrai que le côté mélancolique, moi, peut-être le fait d'être loin de mon pays, ça me réveillait cette mélancolie. Je sais pas trop comment l'expliquer, quoi,
mais... Non, mais c'est intéressant parce que finalement, on a commencé avec la chanson de Jacques Brel qui dit que ça n'est pas possible à dire, qui dit que, en fait, un chant qui s'accompagne d'un claquement de main et d'une danse tournoyante, en fait, c'est extrêmement puissant, mais on peut presque pas dire ce que c'est. Et finalement, on entendait aussi Sonia Vider-Atherton parler d'une nécessité, mais d'une nécessité qui dépasse tous les mots qu'elle pourra ensuite poser dessus. Elle dit « j'ai compris sans comprendre », donc il y avait quelque chose qui s'impose.
Non, mais c'est vraiment ça, en fait.
Et est-ce que c'est pas valable pour vous deux, que ce soit violoncelle ou autre, en ce qui concerne la musique ? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de cet ordre-là ?
Bah, c'est très dur de mettre un mot dessus, en tout cas. C'est intuitif, c'est presque animal, j'ai envie de dire. Enfin, voilà, ça, c'est une évidence, quoi. En tout cas, je sais pas, moi, le choix du violoncelle, c'était, voilà, un moment, j'ai dit, ah oui, en fait, c'est ça, et tout d'un coup, on peut plus se passer de ça, en fait.
Oui, puis il y a bien des tentatives ou des tentations de vivre sans.
Oui, bah oui,
essayer. Non, non, mais c'est ça, c'est ça qui est compliqué aussi.
J'aime bien parce que je vois l'expérience qui parle.
Mais en fait, ça vous rattrape. Il y a toujours un moment où en fait, ça vous rattrape, et que ce soit par moment, c'est l'extérieur, mais souvent, en fait, c'est vous-même. C'est que vous sentez dans le quotidien, il y a quelque chose qui n'est pas là, qui vous manque, et pourquoi. Et heureusement, le chant, en fait, n'a besoin de rien d'autre que lui-même, et du coup, pas besoin forcément de public, en fait, en plus. On a besoin que de soi-même. Donc, bon, ça peut être très égoïste à un moment, mais c'est juste que c'est vrai que.
Vous avez l'une et l'autre connu des moments sans chanter ?
Ouais.
Ah ouais, sans chanter, même fredonner entre le petit-déj et se laver les mains, quoi.
Ben, c'est dur à dire, mais...
Non, peut-être pas, quand même. Peut-être pas comme ça, pas à ce point-là. Enfin, si, des journées sans chanter, oui.
Bah, moi, j'ai commencé... Enfin, après, il y a chanter au quotidien, juste comme ça, mais c'est vrai que moi, j'ai commencé à chanter assez tard, vraiment, pendant très longtemps. Pour moi, il y avait le violoncelle, rien d'autre. Hein. Même, on parlait de Barbara, Brel et tout ça, en fait, j'ai écouté un peu quand j'étais petite, mais après, pendant au moins 5-6 ans, toute mon adolescence...
Que de la musique instrumentale.
Ah oui, j'écoutais vraiment... Il y avait rien d'autre qui existait, hein. Tout était nul à part ça. Donc, en fait, je me suis vraiment... et puis le répertoire en fait me fascinait tellement, je me souviens je le chantais mais je à tout poumon, mais j'avais l'impression d'être mon violoncelle moi-même, je sais pas comment, c'était pas vraiment, et puis je me souviens
c'est une fusion quoi.
De ma famille me dire mais ça va pas la tête, tu chantes n'importe quoi, et, mais moi j'entendais dans ma tête, c'était le son du violoncelle quoi, c'est un peu dur à expliquer, mais je me suis vraiment mise à chanter il y a une dizaine d'années quand j'ai commencé à écrire des chansons en fait. C'était pas vraiment par choix, je me suis pas dit je vais commencer à chanter, j'ai commencé à écrire des chansons et puis bon bah du coup je les ai chantées quoi, mais c'est vraiment un autre rapport complètement différent que celui de Rosemary.
Culture, par les temps qui courent, Marie Richeux avec
Rosemary Sandler
et Dom Lanena.
si fosse la primavera. Tot arbravardeix, tot branca floreix, com si fos la primavera, com si fos la primavera, com si fos la primavera.
Le problème avec la voix, c'est que c'est toutes tes émotions qui sont engrammées, incrustées dans ton corps, dans chaque cellule, quoi. Donc du coup, c'est un putain de travail, quoi. Et puis, à un moment, j'ai réalisé aussi que j'étais un garçon trop cérébral. Et je me rappellerai toujours ça, j'ai visualisé justement tous les chanteurs que j'aimais. Ça allait de John Lee Hooker à Gainsbourg, à Nina Simone, Jim Morrison, tous les grands chanteurs, quoi, dont la voix me touchait particulièrement. Et j'ai réalisé que c'était avant tout des présences physiques, en fait, des présences physiques fortes, même si c'est des âmes, c'est des pensées, c'est... Donc je me suis dit, putain, si un jour je veux faire quelque chose d'intéressant dans ma vie, il faut que ce soit une présence physique qui chante, quoi. En fait, pour moi, le but ultime, c'est de laisser la voix chanter. Et moi, finalement, avec ma volonté, ma conscience, moins j'en fais et plus ça chante.
Moins j'en fais et plus ça chante. C'est Arthur H. en 2016, dans La Voix dans tous ses états sur France Inter. Là encore, j'ai l'impression que finalement, on continue de tournoyer avec la chanteuse sous le soleil de Sur la place de Jacques Brel. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui arrive et qui doit traverser le corps, qui doit traverser la présence physique et qui s'appelle la musique, la voix, voire quelque chose de sacré, parce que finalement c'est une des dimensions qu'on n'a pas du tout évoquées avec la première chanson de Brel, mais dans le livret de l'album, vous utilisez la vocation de Saint Matthieu, un détail de ce tableau, et il y a aussi l'idée que peut-être cette jeune femme, elle est traversée par quelque chose de sacré, puisqu'on n'arrive pas à dire ce que c'est. Et la chanson qu'on vient d'entendre, elle candles. Ourselves, mm-hmm. C'est comme ça qu'on dit. Elle aussi, elle a à voir avec quelque chose de sacré. Mm-hmm. Alors, vous entretenez quoi l'une et l'autre avec cette idée que peut-être quand on fait de la musique, on est traversé par quelque chose qu'on appelle... je sais pas comment on se débrouille pour l'appeler.
On l'appelle pas.
Ouais. On l'appelle pas.
Je crois qu'il faut pas l'appeler parce que c'est... D'abord, il y a des jours où on n'est pas traversé.
Comme ça, tout le monde se calme.
Et puis, mais je crois qu'effectivement, il y a c'est assez compliqué comme, c'est assez difficile et compliqué comme question parce que c'est d'abord, c'est toujours très personnel. On peut pas parler vraiment d'universel, je trouve, là-dedans. Mais il y a quand même, quelque chose de, effectivement, de l'incantation, malgré tout. Qu'est-ce qu'on appelle? Qu'est-ce qu'on veut raconter? Alors, est-ce que c'est la musique qui prend le dessus ou est-ce que c'est le texte? Il y a un moment où on sait plus, parfois, qu'est-ce qui prime? Qu'est-ce qui va entraîner? Est-ce que c'est justement le rythme ou est-ce que c'est le texte qui va, l'histoire qui va appeler les gens? On sait pas trop, mais il y a comme un, le corps effectivement fait le lien entre je dirais la terre et voilà, on est entre les deux, entre la terre et le ciel. Ça n'a rien de religieux en fait, mais c'est effectivement se laisser porter, se laisser pour essayer de faire passer quelque chose en fait, voilà. Et donc c'est voilà, moi je peux, il y a quelque chose effectivement de l'incantation. Alors qu'est-ce que ça vient chercher, qu'est-ce qu'on trouve? Moi personnellement, je pense qu'il y a effectivement il y a l'importance du corps parce que c'est ce qui laisse passer en fait. Mais bon, je sais pas, un lien fort avec la mort aussi, voilà, quelque chose qui, une forme de communication, je sais pas, à un moment, je sais que sur scène, beaucoup, je pense, en fait.
À vos morts.
À mes morts. Énormément, en fait. C'est ce qui me, enfin, bizarrement, c'est ce qui me reconnecte à la Terre. Enfin, c'est étrange, mais.
Ça s'entend.
Oui, c'est vrai, mais après, je pense que c'est surtout ce qui devient un peu sacré ou un peu de l'ordre de l'incantation, c'est de devoir appeler ou essayer de transmettre une énergie ou une force ou un sentiment et de se voir posséder, enfin en fait de se mettre en situation d'incarner ce sentiment, enfin en fait au final on doit incarner ce sentiment ou cet état d'esprit.
D'ailleurs je me demande si vous n'utilisez pas ce mot de traversée dans le livret.
Ah si, d'ailleurs ouais. Si c'est vrai.
L'important si. C'est la traversée.
Oui,
ouais.
Effectivement. Oui,
parce que en fait
bah justement en hommage à vas-y. Non bah en hommage à une amie qui est partie et justement laquelle on a beaucoup pensé en faisant ce disque.
Ouais. Et qu'en fait, oui, c'est ça, je dis, en fait, l'important, ce n'est pas ni d'être d'un côté ni de l'autre, finalement, c'est cette traversée, quoi. Mmh, mmh. Et ça a failli d'ailleurs être le titre.
C'est vrai, on y avait pensé. Vrai, ouais, effectivement.
On y a pensé, il y a eu plusieurs titres, effectivement, et puis après, on s'est dit que Ramage, c'était peut-être plus original, que c'était joli, et puis, enfin voilà, ça avait d'autres.
Ça rime
d'autres...
avec fromage.
Voilà.
Avec fromage. Voilà. Et ça, c'est très ça, important. C'est... Et plumage.
Oui,
voilà. Ouais, évidemment, quand même. Je disais qu'il y avait une dimension sacrée à ce qu'on a entendu juste avant, parce que c'est vraiment, pour le coup, un chant religieux. Oui. Alors, qu'est-ce qui vous fait passer d'une chanson ultra païenne qui est sur la place de Brel, à une berceuse sud-américaine, à un chant en hommage à la naissance de Jésus et à la conception immaculée de la Vierge Marie.
Bah, en fait, El Cant dels Ocells, donc c'est le chant des oiseaux, et c'est d'abord, on l'avait enregistré sur le premier album parce que ça a été un chant de, c'est un chant traditionnel catalan que Pablo Casals a fait revivre un peu quoi, et qui a repopularisé au cette moment chanson. De la dictature comme chant de résistance, mais sous forme de morceaux instrumentaux. Donc en fait, en tant que violoncelliste, on grandit avec ce morceau. C'est vraiment un classique de violoncelliste, disons. Et au point où moi, je savais même pas qu'il y avait des paroles en fait.
On voulait faire un lien voilà. En fait, entre le premier et le deuxième disque, en disant mais comment on va réussir, il faut qu'on fasse différemment, il faut qu'on fasse un nouveau répertoire, mais peut-être qu'on peut garder un morceau justement qui était instrumental sur le premier et essayer d'y mettre des paroles sur le second. Enfin voilà, il se trouve qu'effectivement c'était un chant de Noël.
À la base c'était un chant de Noël. Qui a été aussi un chant de résistance au moment de la dictature en Espagne et qui en plus a des enfin c'est très très beau parce que ça passe c'est les oiseaux qui racontent la naissance de Jésus voilà on trouvait que c'était
et puis comme lien c'est pas mal puisque ouais. Les oiseaux bon
voilà
c'est quand même assez présent. Non, mais oui, c'est vrai, dans l'univers de ce projet-là.
Oui.
Une chanson, c'est souvent, ça a été souvent, tout au moins dans l'histoire, et ça a été souvent le seul moyen de se défendre pour certaines gens. Parce que ça remonte assez loin quand même, mais c'est éternel. Dans tous les pays du monde, la chanson a été souvent le seul moyen de défense, comme la poésie. Plus que l'écriture, parce que les livres sont interdits, mais une chanson, comment voulez-vous empêcher un type de chanter dans la rue ? C'est ça qui est émouvant dans la chanson politique. Which side are you on, boys? Which side are you on? Which side are you on, boys? Which side are you on? Which side are you on, boys? Which side are you on? Thank you.
the good news to you I'll tell of how the good old Union has come in here to dwell. Which side are you on, boys? Which side are you on? Which side are you on, boys? Which side are you on? My father was a miner, and I'm a miner's son. He'll be with you, good fellows, until the battle's won. Which side are you on? J.H. Blair. Which side are you on, boys?
Et cette fois, on est en 1931, on est au milieu de votre disque, Rosemary Stanley et Dom La Nena, au milieu de votre disque avec une chanson de 1931, une chanson de contestation. Là aussi, vous allez nous en dire davantage, mais on entendait une archive de Bernard Blier, en 1970, qui disait finalement, on n'a jamais pu empêcher un type de chanter pendant une grève, pendant un conflit ou dans la rue. Bon, ça reste à prouver parce qu'en fait, il y en a qu'on a empêché de chanter. Mais il dit, voilà, c'est finalement l'histoire de la contestation, elle a toujours été liée avec des chansons. Je vous sais que c'est pas un hasard qu'il y en ait tant, finalement, dans ce disque-là, qui est quelque chose de, sinon de directement contestataire, en tout cas comme ça, de...
Bah d'ailleurs, dans ce disque, il y a eu une chanson qui a été interdite, il y a une chanson brésilienne qui s'appelle Cali, qui a été interdite pendant 5 ans au Brésil, aussi pendant la dictature, et qui était vraiment... en fait, une chanson de protestation et que du coup, tout le monde chantait sur la 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 et que tout le monde se faisait couper les micros. C'était. Mais là, en l'occurrence, Which Side Are You On, c'était une chanson de mineur américain écrite par une femme,
ouais, Florence Reese, qui était donc fille de mineur, femme de mineur et qui. Et qui, en fait, le jour où elle a écrit le morceau, en fait, son mari était parti. Ils étaient en train de faire un appel à la grève. Et puis, il s'est fait, en fait, poursuivre par la police de la mine. Donc, il dépendait du propriétaire de la mine. Et ils ne l'ont pas trouvé. Mais par contre, ils ont fait peur. Ils lui ont fait peur à elle et à ses enfants. Mmh. Et à partir de ce moment-là, en fait, elle a décidé qu'elle ne, voilà, qu'il fallait qu'il se passe quelque chose, en fait, et que ces types qui faisaient partie de la police, faisaient aussi, enfin voilà, ils vivaient aussi de la mine et que voilà, elle appelait juste, c'est elle qui a écrit ce chant justement de révolte, quoi.
Pour s'adresser à la police en leur disant, mais vous les gars, vous êtes de quel côté?
Mais pas que pour s'adresser à la police, c'était aussi pour demander à tous les mineurs de se positionner. Et c'est d'autant plus fort, je pense, que ce ne sont pas les femmes qui descendent à la mine, ce sont les hommes, mais que ce sont les femmes qui gèrent la faim et qui savent jusqu'où, en fait, on peut aller dans une grève et qui gèrent la faim des enfants aussi.
Voilà. Elle raconte qu'elle était absolument terrifiée par la police qui vient vraiment l'effrayer, qui vient l'intimider, et que ça a été presque cette force-là qui l'a fait écrire. Comment est-ce que vous avez connaissance de cette chanson ?
Moi, je la connaissais. Il y a les Almanac Singers, en fait, qui est une. C'est Pete Seeger, en fait. La première version que je connais, moi, c'est Pete Seeger. Les Almanac Singers, qui est un groupe que Pete Seeger avait monté avec plusieurs autres chanteurs. Et puis, j'avais entendu une version de Natalie Merchant aussi, dans The Coal Miner's Daughter. Voilà, et je suis obligée d'y faire référence, parce que c'est vrai que c'est un disque que j'ai beaucoup écouté aussi.
Du côté vraiment, du coup, du protest song, quoi.
Complètement. C'est cette génération-là, c'est la génération de Woody Guthrie aussi, et c'est toutes les influences, justement, des protestants, des protestants, voilà, américains des années 60, en fait. Enfin, y a eu un retour à ça dans les années 60, 70.
Et Dom Lanena, vous, c'est quoi votre rapport entre... Parce que y a, vous parliez de ce chant-là, mais il y a aussi la figure de Violetta Parra. Enfin, je veux dire, il y a quand même des figures de lutte et de protestation dans ce disque-là qui sont très fortes et qui, là encore... Bon, après, c'est parce que je décide, moi, de faire de cette femme qui chantait sur la place une de ces femmes-là. Mais en même temps, je trouve que finalement, elle se... Ça se passe le relais.
C'est vrai
que
ça aurait pu être Violetta, cette femme qui
qui lançait sur la place. Vous nous en dites quelques mots, peut-être?
Ben, en fait, Violetta, bon, la chanson de Florence Rice, en fait, ce qui était
marrant...
Qu'on vient d'entendre. Moi, je l'ai connue à travers Rosemary, je la connaissais pas. À la base, en fait, ce qui s'est passé avec ce titre, c'est que on devait enregistrer une chanson d'Alan Toussaint. Et j'étais toute seule en studio, donc j'ai fait la partie instrumentale.
La magie de l'enregistrement, quand même.
Et en fait, quand Rose est arrivée, je lui ai envoyé, elle a dit, mais ça me fait penser à une autre chanson et tout. Et en fait, quand elle est arrivée, elle a chanté Which Side Are You On dessus, et on a dit, mais en fait, c'est incroyable.
Et donc, vous avez gardé la rythmique.
Ah oui, j'ai absolument rien changé.
C'était juste l'harmonie, c'était la même chose.
L'harmonie, c'est la même chose.
La même taille.
Mais comme cette chanson de Which Side Are You On, en fait, au départ, est une chanson traditionnelle, qui est une chanson, je sais pas, qui date de la fin du 19e, genre, je sais plus le titre original.
Ah, mais vous voulez dire musicalement?
Musicalement,
l'air.
En fait.
Ah, oui, c'est
parce
vrai.
Que c'est comme ça que beaucoup de chansons folk américaines naissent, c'est que.
On change les paroles.
On change
sur
les
un
paroles
air
sur un air déjà connu. Ouais. Parce que du coup, c'est une manière aussi pour les gens d'enregistrer la musique, etc. Et de la reprendre et de la chanter. Bon, je crois que c'est une méthode assez...
Ouais, c'est tout à fait et le cas pour les chansons folkloriques et le cas pour les chansons de protestation, en fait. C'est des manières de garder la mémoire, en fait.
Voilà. Et en fait, bon, ce qui était très drôle, c'est que on était partie sur une chanson d'Alain Toussaint qui n'a rien à voir. Moi, j'adore Alain Toussaint. Et que ça n'a rien à voir.
C'est quoi?
C'était Everything I Do Gonna Be Funky From Now On.
Allez,
rien à voir. Qui dit autre chose, qui est plutôt sur un mood plus cool.
À l'entendre, c'est ce soir,
voilà.
Quoi.
Voilà. Et du coup, Dom l'enregistre en studio. Elle me transmet l'enregistrement parce qu'on était, voilà, on était séparés, on était en tournée sur d'autres choses, voilà. Je la reçois et je dis, c'est marrant. Ça me fait penser à autre chose. J'ai cherché, et puis jusqu'au jour où on est arrivé en studio, je dis, mais c'est Which Side Are You On? Et là, en fait, je me suis dit, bon. C'est celle-là qu'il faut faire, en fait. C'est parce que je trouve qu'elle a un message important, elle est belle, elle a une histoire, elle est forte. Voilà.
Magie de l'enregistrement, c'est quoi? C'est, parce que, évidemment, quand on écoute ce disque, il y a une telle proximité. J'écoutais même, j'aurais écouté beaucoup, parce qu'elle est vraiment sublime, votre version de Bird on Wire, et on entend vos bouches.
Ouais. Oui, c'est vrai.
Et je me suis dit, tiens, ils ont gardé les bouches, quoi. Parce qu'évidemment, en 2 secondes et demie, ouais. On peut couper les bouches.
Oui,
hein.
Ouais.
Et donc, il y a du coup quelque chose de l'enregistrement qui est extrêmement charnel, on est très proche. Je pense que c'est ça qui fait l'émotion. Alors, en écoutant le disque, on se dit, à quoi ça ressemble, ces moments-là, pour vous deux?
Il y a des moments très différents, parce qu'il y a des moments où on est ensemble, où on enregistre ensemble, dans une même pièce.
Comme Bird on Wire, d'ailleurs, voilà. On avait fait en... On était côte à côte.
On était à côté. Et puis des moments où on enregistre le même jour, mais séparément. Ouais. C'est très variable, en fait, sur les morceaux.
Bah, disons que sur ce disque, il y a eu peu de morceaux. Il y a eu 2-3 morceaux qu'on a fait vraiment comme Bird on Wire. Mais sinon, c'était surtout dans un esprit un peu presque de construire un petit château de cartes ou un collier de perles au fur et à mesure, en fait. C'était... On a vraiment construit, bâti les arrangements beaucoup en studio, quoi. Et du coup, voilà, c'est quelque chose d'assez intime parce qu'au final, on fait vraiment tout nous deux, quoi. Enfin, il y a vraiment que nous. Et une fois qu'on avait tout construit de notre côté, on a appelé 2-3 musiciens pour combler quelques sonorités qu'on avait envie d'avoir. Mais disons que sur ce disque-là, c'était plus que sur le premier, c'était plus dans une sorte de jeu de construction et de d'équilibre, en fait, de trouver le bon équilibre entre toutes les parties de violoncelle et de voix.
On allait parler de Violetta Parra.
Oui, pardon.
C'était un très beau détour.
Violetta, déjà, nous, on pourrait faire un disque de Violetta parce qu'on est vraiment complètement fan de Violetta. C'était J'ai grandi avec, c'est mes parents qui écoutaient.
Vous pouvez les dire qui c'est, pour ceux qui ne savent pas?
Bah, Violetta, c'était une des plus grandes chanteuses chiliennes, qui n'était pas seulement chanteuse d'ailleurs, qui était aussi artiste, qui est une des premières femmes à avoir exposé au Louvre, parce qu'elle habitait pendant pas mal de temps à Paris.
Peintre, qui faisait des tapisseries.
Voilà, qui faisait beaucoup de tapisseries en fait, très très belles. Et qui a, en fait, elle a fait quelque chose de complètement génial à l'époque, parce qu'elle a fait le tour du Chili avec sa guitare, et elle a recompilé, disons, recollecté tous les chants traditionnels dont il n'y avait aucune trace
écrite
ni enregistrée, quoi. Et donc elle a sauvé comme ça beaucoup de répertoires populaires et orales d'Amérique latine, et elle faisait des émissions de radio d'ailleurs dans tous les villages où elle allait. Enfin, c'était une femme vraiment extraordinaire, quoi. Et donc cette chanson Que sacado con quererte, c'est une chanson d'amour, de séparation.
Oui, de désespoir.
De désespoir amoureux, ouais. Voilà.
Qu'elle a connu, c'est pas d'ailleurs le seul désespoir qu'elle ait connu, malheureusement.
Elle a une vie assez turbulente de ce côté-là. Et elle a été séparée de ses enfants pendant très longtemps quand elle est venue en France. Elle a perdu un enfant. Enfin, elle a une vie vraiment, vraiment très difficile et assez fascinante d'ailleurs.
Mais très engagée politiquement et très, très animée par l'engagement politique, en tout cas.
Ouais.
Vous parlez de collecte de chants traditionnels, d'un répertoire comme ça qui n'a pas de traces écrites, mais des traces orales multiples si on va les recueillir. Il y a aussi une chanson bretonne, une chanson de bergère qui arrive assez rapidement dans le disque, qui rejoint quand même aussi cette idée de la ritournelle, parce qu'il y a beaucoup de choses qui tournent comme ça. Il y a quand même, c'est quelque chose qui est très présent dans ce disque-là. Elle vient d'où, cette chanson bretonne?
Elle vient de Yann Fanch-Kemener. Qui est vraiment un chanteur que j'ai découvert quand j'étais adolescente et qui m'a réouvert un monde et une porte sur la culture bretonne, parce que mon grand-père est d'origine bretonne finistérienne, vraiment fait partie de cette génération à qui on a dit qu'il fallait surtout pas parler breton. Pour lui, c'était la vraie culture, c'était le français, le latin et le grec, et voilà. Et du coup, moi, quand j'ai entendu Yann Fanch-Kemener pour la première fois, je me suis dit, donc ça existe, voilà, il existe.
Entendu chanter, vous voulez dire?
Pardon?
Entendu chanter.
Oui, entendu chanter, et puis surtout, et puis cette voix, cette présence incroyable qu'il était. Il est décédé l'année dernière. Et voilà, et puis c'est quelqu'un qui a porté justement ce répertoire-là, le traditionnel breton, et du coup, c'était, j'avais envie, j'avais envie de porter une de ces chansons un peu en hommage aussi à Yann Fanch-Kemener. Voilà, donc ça me travaillait jusqu'à l'enregistrement du disque, où on se posait vraiment la question, parce que je parle pas breton, je suis pas bretonnante, et du coup, j'ai été un peu coachée, mais...
C'était un challenge.
C'est difficile.
Et en même temps, c'est très beau, puisque si vous dites que votre grand-père faisait partie de la génération de celles et ceux à qui on a interdit de parler le breton, mais comme en fait on a interdit et on interdit encore à tant de personnes de parler des langues minoritaires au profit de langues plus majoritaires ou dominantes, c'est un disque qui est fait de plein de langues différentes.
Oui,
ouais. C'est une grande joie, ça, moi, je trouve. En fait, on passe d'une plage à l'autre et on est du français au breton, à l'anglais, à l'espagnol, au catalan.
Grec.
C'est la fête. Ouais, c'est vrai qu'il y a du grec.
Oui, il y a du grec, oui. Il y a du russe, même.
Merci beaucoup à toutes les deux. Birds on Wire, Ramage, c'est le titre de ce disque. Vous serez en concert, je l'ai dit, demain, mais c'est complet. C'est à la Cigale. Il y a un Olympia qui s'est ouvert pour le 19 janvier 2021. Et il y a toute une tournée dont on mettra les dates sur le site internet. Dunkerque, Bourges, Ivry, Massy, Berne, Argenteuil, etc. Merci beaucoup.
Merci. Merci.
Jogo da amarelinha na linha não vai pisar. Pé dentro, pé fora, esse pé não vai errar. Jogo da amarelinha é pra menina pular. Cuidado pra não errar, que a vida é curta, menina, e nada se vai levar.
Le jeu de la marelle va de la terre jusqu'au ciel. Entre la chance et le puits, tu reviens et c'est fini. Petite, petite fille, tu es là pour t'amuser. Lance bien la pierre, prends garde où tu mets tes pieds.
À la prise de son ce soir, c'était Sylvain Latu. À la réalisation, Lise-Marie Barré. Par les temps qui courent, c'est Jeanne Aléos, Romain de Bec de Lièvre, Marianne Chassor et Julie Ascal. Et Anouk aujourd'hui.
Tu es là pour t'amuser. Lance bien la pierre, prends garde où tu mets tes pieds.
C'est aussi une page sur le site internet franceculture.fr, la page de Par les temps qui courent, et un podcast où on peut s'abonner via, par exemple, l'application Radio France. À 22h, c'est le journal sur France Culture. Très belle soirée à toutes et à tous.
Minigna, piccinigna, tonta, ci tanto sciorà. Tu sciorri ma la coia, la chievo mi baia. Le jeu de la marelle va de la terre jusqu'au ciel. Entre la chance et le puits, tu reviens et c'est fini. Petite, petite fille, tu es là pour t'amuser. Lance bien la pierre, prends garde où tu mets tes pieds. La 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 la.